Donc, on va reprendre. On va essayer de faire pas mal de méditations, pas trop longues, j'espère. Sauf si vous êtes vraiment absorbé, alors là, je vous laisserai tranquille. Je suis passé à la boutique tout à l'heure en venant et j'ai trouvé ce livre que je n'ai pas encore lu, mais je l'ai feuilleté et ça a l'air vraiment bien. Il y a plein de petits exercices, de méditation, sur exactement ce qu'on vient de faire. Donc maintenant, vous avez toutes les bases pour pouvoir le faire sans les bases, juste le lire comme ça, ça ne présenterait pas un grand intérêt, je trouve. Mais pour vous, maintenant, qui avez tout, ce serait bien que vous le procuriez, parce que je trouve qu'il est très...
Il y a du stock à la boutique.
Il n'y en a plus beaucoup, non? Il y en a 5. Mais vous pouvez l'acheter dans n'importe quelle bonne librairie à prix modique. Il ne coûte que 7,80 €, donc rien à voir avec le mien à 35. Se voir tel qu'on est.
Ah, merci.
Voilà, se voir tel qu'on est. Il existe aussi en anglais pour les anglophones, qui s'appelle How to See Yourself as You Really Are. Vous pouvez le lire en anglais sans ou avec la traduction.
Il y en a peut-être cinq.
Je peux vous vendre le. Vous pouvez celui-là aussi. Je le rapporterai, donc ça en peut-être six. Mais bon, ça se trouve facilement, ça. C'est pas comme le jeu. On peut le trouver facilement. Non, ça, c'est libre. C'est le Dalai Lama, oui, pardon. Oui, tout à fait, excusez-moi. How to see yourself as you really are. Un truc comme ça, oui, c'est ça. Donc, se voir tel qu'on est. Voilà, c'est la boutique en rentrant à gauche. Ça va être la course pendant la pause. ça a l'air très bien. Ça a l'air très, très, très simple, très clair. Je le montre sur Internet aussi, si vous voulez vous le commander sur, voilà, en ligne. C'est collection sagesse, point sagesse, numéro 248. SA 248. Se voir tel qu'on est. Voilà, et puis, donc, comment faire quelques méditations. Vous connaissez tous maintenant Comment méditer de Kathleen MacDonald. Hein. Ça, c'est plus. Et là-dedans, donc, vous avez une méditation sur la vacuité qui est bien, qui est claire, que je vais utiliser d'ailleurs, puisque, bon, pourquoi pas. Je n'avais prévu une autre, mais bon, celle-ci est très bien. Et puis, comme ça, ça vous familiarisera avec, avec le style. Essayez de la faire autant que vous pouvez. Hein. Exactement comme elle est formulée, elle est très simple. Il n'y a pas. Pas de complications, c'est direct. Et donc c'est l'analyse en quatre points, hein, qu'on a expliqué ce matin, qui est mise en pratique dans cette méditation. Donc, ben, si vous voulez bien, maintenant, comme ça va tout la pratique en quatre points, l'analyse en quatre points, vous avez tous pigé, compris. Comment ça fonctionne, les quatre points, qu'est-ce qu'ils sont. Donc, okay. Donc, avant de commencer, juste un bref rappel. On va faire une petite offrande de mandala au Bouddha. Et on va commencer. Ça, donc, ces pages dans votre livret doré, c'est page 98 ou quelque chose comme ça.
98.
Oui, merci, Colette. Là, qui suivent bien. Hein. Heureusement. Sajip kisho shime toja rirani jeni de gempa de sangye jinde umite perwaye dokun lan la chepa shoye dam guru ratna mandala kam niryataya. Quand on visualise le Bouddha, quand on fait ça. Bien, donc, qu'est-ce que la vacuité n'est pas? Juste pour ne pas commencer la méditation tout de suite. Qu'est-ce qu'elle n'est pas? Il ne faut pas se tromper, justement. C'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus.
La réflexion.
Non. N'est pas le néant, voilà, tout simplement. La vacuité n'est pas un néant absolu, un rien. Hein? La vacuité n'est pas un rien, n'est pas un néant. Okay. Qu'est-ce qu'elle est alors?
Une absence.
Une absence. Ouais. Ou une vacuité, donc c'est une absence de quoi ? D'existence intrinsèque, inhérente, véritable, ultime, comme vous voulez, okay. Absolue, indépendante, par ses propres caractéristiques, par sa propre nature, objective, hein. Objective veut dire qui apparaît de l'objet, donc c'est ça. Vous avez trouvé tous ces termes, hein, qui sont assez bien explicités. À quoi peut-on appliquer cette absence d'existence inhérente ? À tous les phénomènes existants. Donc, en gros, à la personne et aux agrégats. OK ? On l'applique à la personne, soi-même, hein, et aux agrégats. Donc, on a dit que c'était une analyse ultime, hein, pour voir, justement, qui permet de voir comment on a tendance à saisir notre propre personne, hein, et que ce n'est pas une analyse conventionnelle. Donc ça veut dire qu'au terme de l'analyse, on a réfuté l'existence véritable du je, l'existence, une existence absolue qui existerait de son propre côté, mais la conventionnalité reste intacte. Okay ? Le je continue à fonctionner. Hein ? Donc qu'est-ce qu'on cherche dans cette analyse ? Qu'est-ce qu'on recherche ? Où se trouve véritablement la personne ? C'est-à-dire notre « je », ce qu'on appelle la saisie égotique. Hein, donc c'est ça qu'on recherche. Donc « existence véritable » veut dire que ça existerait de son côté quand on le cherche sur les agrégats, hein, sur le lieu où elle se trouve. Donc il faut bien distinguer, hein, la simple personne conventionnelle et la personne qui semble exister véritablement. Ça, c'est le point le plus délicat. Et pas se tromper. Hein, on réfute pas la personne qui existe conventionnellement. On réfute la personne qui semble exister véritablement. La personne conventionnelle, le simple jeu, ce qu'on appelle le simple jeu, existe. Il fonctionne. Et c'est l'objet d'observation. C'est ça qu'on observe. Et c'est pas ça qu'on réfute. Donc cette personne qui existe, vous fonctionnez, si on vous pince, vous réagissez, voilà. Ne pensez pas que vous n'existez pas, hein, jamais. Hein. Ne pensez pas que les phénomènes n'existent pas. Mais ils n'existent pas quand on les cherche dans une analyse ultime. Une analyse ultime, donc c'est ça, c'est rechercher quelle est l'essence du phénomène, qu'est-ce qui fait que est-ce que le phénomène aurait une existence par lui-même qui en fait ce qu'il est. Donc en fait, cet objet, on va le regarder, on va le chercher dans le miroir de notre esprit. Mais ce miroir est un miroir déformant. Ce n'est pas un miroir qui rend exactement la réalité, qui reflète exactement la réalité. C'est un miroir déformant. À cause de quoi ? À cause de l'ignorance qui déforme la réalité, parce qu'elle impose, elle surimpose, hein, cette saisie égotique sur le jeu, hein, sur tout le reste, hein, sur tous les phénomènes. Donc elle impose un soi existant véritablement sur tous les phénomènes. Donc c'est ça l'ignorance, l'ignorance, donc c'est une surimposition, hein, de quelque chose qui n'existe pas, qui est plaqué sur quelque chose qui existe. Voilà. Okay. Donc quand on médite sur la vacuité, hein, quand on a médité sur la vacuité, on ne cesse pas d'exister, on continue à exister. Quand vous réalisez la vacuité, vous continuez à exister. Hein. Simplement, qu'est-ce qui se passe quand vous avez réalisé la vacuité ? Vous avez enlevé cette surimposition. Et c'est important de l'enlever, cette surimposition, parce que cette surimposition, elle fait du mal, elle est nuisible, aussi bien à soi-même qu'aux autres, puisque c'est la racine de toutes les perturbations mentales. Donc c'est ça qu'on essaye d'extirper, c'est cette racine donc, des perturbations mentales, ce qu'on appelle l'ignorance fondamentale. Donc voilà, donc... cette saisie, donc, comme elle n'est pas toujours manifeste, hein, elle n'est pas toujours là, cette saisie de l'ego. Quand on fonctionne, quand on fait plein d'activités, on ne s'en occupe pas, mais elle intervient. Hein. parfois dans les situations difficiles. Donc pour méditer sur ce non-soi personnel, il faut faire émerger cette saisie égotique. C'est ça qui est important. C'est la saisie égotique qu'on veut enlever. Donc il faut la faire apparaître, la rendre plus manifeste. Donc, c'est comme si, il faut trouver la cible, en quelque sorte. Ou c'est comme si on voulait enlever une, pas quelque chose qu'on a, qui est sur notre peau et on n'arrive pas bien à le localiser. Hein. Donc, il faut déjà bien localiser pour faire une opération. Il hein. faut localiser le mal que l'on veut enlever. C'est, ou quand on veut tirer une flèche, il faut bien localiser la cible. Donc, c'est ça. Si vous ne localisez pas bien la cible, vous aurez beau utiliser toutes les analyses que vous voudrez, ça ne servira à rien. Par contre, si vous trouvez la cible, si vous voyez la cible, alors là, ça ira tout seul. Toutes les analyses que vous allez appliquer, elles vont faire mouche. Hein, elles vont taper dans le mille. Donc c'est très très important, hein, ça. Donc il faut... Alors qu'est-ce qui... Donc il faut trouver cette cible, il faut trouver cet objet de négation, cet objet de réfutation, qui est la saisie de notre propre personne, comme si elle existait de manière inhérente. Okay. Donc ça veut dire que pendant la méditation, comme on n'a pas une super, super concentration, enfin je ne sais pas vous, mais moi, il va falloir revenir, on va le perdre cet objet de concentration, forcément. Hein. Si on n'a pas réalisé chiné, si on n'a pas un calme mental au 9e stade, cet objet il va disparaître. Il va être là de temps en temps, hein, il va disparaître. Donc là, il faut être très vigilant. Quand on le voit disparaître, il ne faut pas suivre les pensées, il ne faut pas aller vagabonder à droite et à gauche, parce que là, vous ne faites plus rien, vous n'êtes plus dans l'analyse. Donc là, à ce moment-là, quand vous voyez que cet objet, l'objet de négation, a disparu, il faut revenir dessus. Comment revenir dessus ? Ben, se remettre dans la situation, ou appliquer de nouveau les raisonnements, etc. Donc l'objet de méditation, je vous rappelle, hein, c'est la conception fausse qu'on a de l'ego, hein, du « je hein, ». D'accord. Bon, quand vous faites revenir aussi une situation émotionnelle à la conscience pour faire apparaître ce « je », une fois que ce « je » est apparu, hein, cette saisie égotique, c'est bon. Ne restez pas trop longtemps, ne vous investissez pas, si vous pouvez rester longtemps sur l'objet, mais ne vous investissez pas dans la situation émotionnelle. Ne commencez pas à dire, rentrer dans un tas de discours avec qui m'a fait ci et pourquoi, et si j'avais su, j'aurais dû dire ça. Ne rentrez pas là-dedans, hein, parce que vous allez vous perdre aussi, vous allez vous disperser. Hein. Ce n'est pas ça le but ici. On n'est pas en train de faire une psychanalyse. Hein, d'accord ? Donc on essaye de trouver cet objet de réfutation, et c'est tout, et de se concentrer dessus. Hein. Donc de ne pas s'investir dans le contenu émotionnel, mais se concentrer sur la façon dont notre propre personne nous apparaît dans cette situation. Notre propre personne, j'insiste, pas quelqu'un d'autre, pas le voisin, pas un soi inventé, fabriqué, mais vous, le jeu, hein, vous-même. D'accord. Il faut que vous arriviez à un état où vous avez l'impression que vous pouvez vraiment pointer ce jeu du doigt, hein, comme s'il existait de son propre côté. Quand on a cette saisie égotique, en général, ce jeu, il apparaît quelque part par là, au niveau thoracique, et donc c'est là où il faut essayer de le voir. Il ne va pas apparaître dans votre petit orteil, en général. Hein. Sauf si vous avez très mal, peut-être, à ce moment-là, mais en général, quand vous êtes blessé, quand quelque chose vous touche, hein, une situation, il y a un jeu qui apparaît. Regardez où il est, regardez-le. Et ensuite, donc, on applique dessus. On garde cette espèce de cette apparence et on applique dessus les raisonnements. Hein, la personne n'est pas une avec les agrégats, elle n'est pas différente des agrégats. Okay. Donc, c'est le... Bon, je crois qu'on peut y aller. Hein. Je vous ai mis en garde, je vous ai donné les conseils. On peut essayer de le faire maintenant. Okay. Donc, je vais prendre Kathleen McDonald, puisque, bon, c'est déjà... prêt, il y a juste à servir. Donc vous pourrez le réutiliser, hein, chez vous si vous avez ce livre. Ok, donc on commence par se mettre dans une position où l'on peut méditer pendant longtemps sans avoir trop mal, un certain temps, quoi, disons, et surtout en ayant l'esprit clair Et pour ça, le mieux, c'est d'avoir la colonne vertébrale bien droite, pour que les énergies circulent bien. Donc la posture des jambes, vous faites ce que vous pouvez. Vous joignez vos mains sur la main droite dans la main gauche. C'est une manière de ne plus penser à ses mains après. Là, de relâcher tout ce qu'on peut, c'est-à-dire les épaules. De bien détendre toute zone qu'on pourrait voir tendue, qu'on pourrait sentir tendue. Placer la langue contre le palais pour ne pas avoir à déglutir. Si on peut, c'est plus facile, pour certaines personnes c'est plus difficile, mais bon. Prendre l'habitude de méditer avec les yeux mi-clos, pour pas trop divaguer justement, pour pas tomber dans la rêverie ou le vagabondage mental. Mais essayer de méditer les yeux mi-clos ou ouverts. Et surtout à la fois alerte et détendu. Vous pouvez bouger, hein, bien sûr, si, quand c'est trop long. Si vous avez mal quelque part, n'hésitez pas à bouger, bien sûr. C'est pas de la torture. Donc vous commencez par simplement poser votre esprit sur la respiration. En même temps, vous pouvez penser donc que cette méditation, vous ne la faites pas simplement pour vous-même, mais que vous la faites dans un but altruiste qui vous permettrait donc de vraiment aider les autres à éliminer la saisie du jeu, la saisie de l'existence véritable. Pour les libérer du samsara. Pour faire cette méditation, il faut qu'on utilise deux forces mentales, l'attention et la vigilance, qui sont très importantes. Pour commencer à prendre conscience du jeu, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il sent, qu'est-ce qu'il médite. Comment est-ce que ce jeu se manifeste à vous ? Et s'il ne veut pas apparaître, s'il n'apparaît pas, essayez d'imaginer, de penser à une situation critique. Où il apparaît. Ne pensez à rien d'autre, hein, juste à regarder comment ce jeu apparaît. Est-ce qu'il vous apparaît comme une création mentale ou est-ce qu'il vous apparaît comme quelque chose de solide et d'existant en soi ? Qui existe concrètement, qui existe indépendamment, qui existe de son propre chef. Donc ce je apparaît comme s'il existait de son propre chef, n'est-ce pas? Si vous le perdez, réinvestissez-vous dans la situation. Regardez ce qui se passe. Si votre patron, par exemple, vous dites que vous êtes mis à la porte, si votre conjoint vous quitte, si vous êtes sur le point d'avoir un accident, si la police vous arrête parce que vous conduisez trop vite, ou pour autre raison, donc ce jeu là, où est-ce qu'il est? Qu'il est dans votre tête, votre tête physique, hein, dans vos yeux par exemple, est-ce qu'il est dans vos mains? Non, ne le perdez pas ce jeu, hein, regardez-le bien, est-ce qu'il est dans votre cœur? Donc, considérez différentes parties du corps où il pourrait se trouver. Dans la poitrine. Si on pense qu'il est dans le cœur, est-ce qu'il est où? Il est où dans le cœur exactement? Dans quelle partie du cœur? Dans des vaisseaux sanguins? Dans des nerfs, dans quel coin est-ce qu'il réside? Est-ce que c'est une boule qui est quelque part dans le cœur? Est-ce qu'elle a une existence concrète? Est-ce qu'elle a une couleur, une forme? À ce moment-là, vous pouvez considérer les cellules, les atomes, les particules subatomiques, etc., où ce je pourrait se localiser. Donc, si vous pensez que votre je est une partie du corps, qu'est-ce qui se passerait si on vous opérait de cette partie, si on l'enlevait ? Ou si elle était abîmée dans un accident? Est-ce que votre je disparaîtrait? Imaginez qu'on vous enlève un bras, est-ce que votre je disparaît? Si on vous enlève les deux bras, est-ce qu'il y a encore le jeu? Si on vous enlève une jambe ou deux, est-ce que le jeu existe encore? Vous êtes toujours concentré sur ce jeu qui existe véritablement, qui semble exister véritablement de lui-même. Il se peut alors que s'il n'est pas dans le corps, il soit ce soit l'esprit. Peut-être que notre esprit est le jeu. Donc, qu'est-ce que c'est que l'esprit? C'est un courant, une continuité d'événements mentaux qui changent d'instant en instant. Il y a des pensées, des sentiments, toutes sortes d'expériences mentales qui surgissent, qui durent un certain temps, qui disparaissent, l'esprit n'est jamais le même d'un moment à l'autre. Laquelle de ces expériences serait le jeu ? Est-ce que c'est une pensée affectueuse ? Est-ce que c'est une pensée de colère ? Est-ce que c'est un sentiment de bonheur ? Un sentiment de dépression ? Si vous pensez que ce jeu est l'une de ces expériences, alors qu'est-ce qui lui arrive quand ce type d'expérience n'est plus là, dans votre esprit ? Est-ce que le jeu a disparu ? Si par exemple vous pensez que votre jeu est l'amour, quand votre esprit est rempli uniquement de colère, est-ce que le jeu va quelque part ailleurs ? Ou est-ce qu'il disparaît entièrement ? Est-ce qu'il n'y a plus de jeu à ce moment-là ? Donc si vous identifiez le jeu aux événements mentaux, ça veut dire que vous auriez à ce moment-là de nombreux jeux. Vous auriez un jeu affectueux, un jeu en colère, un jeu apeuré. Un jeu amoureux, un jeu déprimé. Donc si vous n'arrivez pas à trouver le jeu dans votre corps, si vous n'arrivez pas à le trouver dans votre esprit, est-ce qu'il y a un autre endroit où on pourrait le chercher ? Y a-t-il une partie de vous en plus ? Autre que votre corps et votre esprit, où il pourrait se loger. Quand on dit mon corps, quand on dit mon esprit, ça laisse supposer qu'il y a bien un jeu quelque part qui possède ces choses-là, qui possède le corps et l'esprit. Donc si tel est le cas, de quoi s'agit-il ? Quel est ce jeu ? Où peut-on le trouver ? De quelle sorte de phénomène s'agit-il ? Examinez bien toutes les possibilités auxquelles vous pouvez penser. Il faut débattre en fait contre vous-même, contre votre ignorance. Vous êtes en train de débattre contre votre ignorance. Votre ignorance vous donne des raisons. Vous devez lui amener des réfutations. Et si vous ne croyez pas à vos réfutations, ça ne marchera pas. Donc, si vous avez perdu ce jeu, refaites-le apparaître en le cherchant dès qu'il apparaît. Où est-il ? Donc c'est important de bien regarder de quelle manière votre jeu apparaît. Et c'est pas en réalité comment il est, le sentiment que vous en avez. Il faut vraiment s'investir dans cette recherche le plus possible. Ce jeu qui est critiqué, ce jeu qui apparaît quand il est critiqué, puisqu'il apparaît, où est-il ? S'il existe véritablement, il doit exister quelque part. Et après cette recherche du jeu, est-ce que vous remarquez un changement? Est-ce que vous croyez encore que votre jeu est aussi solide et réel qu'il vous semblait auparavant? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a perdu de sa force? Qu'il y a quelque chose qui a lâché un peu? Est-ce qu'il y a une croyance qui a éclaté comme une bulle? Est-ce qu'il semble encore exister de manière indépendante? Est-ce qu'il semble exister par ses propres caractéristiques, en lui-même, par lui-même, de lui-même? À ce moment-là, imaginez mentalement que vous désintégrez votre corps. Imaginez que tous les atomes se séparent, partent à la dérive. Des milliards et des milliards de particules infimes s'éparpillent dans l'espace. Imaginez que vous percevez toutes ces particules qui s'éparpillent dans l'espace. Toutes ces particules physiques auxquelles vous ne vous identifiez pas. Et à présent, mentalement, désintégrez aussi votre esprit. Laissez toute pensée, tout sentiment, toute sensation, toute perception se disperser. Puis disparaître. Et à ce moment-là, vérifiez, analysez le sentiment que vous avez du jeu. Où est-il ? Qui est-il ? Est-ce qu'il apparaît encore ? Ne faites pas l'erreur de penser, puisque mon corps n'est pas le jeu et que mon esprit n'est pas le jeu, donc je n'existe pas. Bien sûr que vous existez. Mais pas de la manière dont vous le ressentez instinctivement, comme quelque chose d'indépendant et quelque chose d'intrinsèque, d'existant par soi-même. Donc, conventionnellement, votre moi existe en dépendance de l'esprit et du corps, et cette combinaison est la base d'imputation sur laquelle la pensée conceptuelle attribue un nom, le mot « je ». Le mot « moi », on lui met un nom, un prénom. Est-ce que vous êtes ce pronom « je » ? Est-ce que vous êtes le son de ce pronom « je » ? Comment existe-t-il, ce jeu, puisqu'il existe? Ce jeu qui est assis, qui est en train de méditer et qui se demande peut-être que je n'existe pas. Comment existe-t-il? Il existe comme tout le reste, comme tous les phénomènes, simplement en dépendance de causes et de conditions, en dépendance de parties, en dépendance de noms. Donc tout ce qui existe, tous les phénomènes existants, dépendent forcément de causes et de conditions, ou de parties, ou de noms pour leur existence. Une voiture, par exemple, est un assemblage de pièces en acier, en verre, en plastique, en caoutchouc, avec un moteur, assemblé par des gens dans une usine. Et on donne le nom voiture à cet ensemble. Mais si l'on cherche une voiture concrète, réelle, qui existerait de manière indépendante, on ne peut pas la trouver. Donc c'est ainsi que les choses existent conventionnellement comme étant simplement désignées sur la base d'imputation. En dépendance de causes, de conditions. Donc comprendre cette idée de dépendance, c'est la cause principale qui va vous permettre de comprendre la vacuité. Donc qu'est-ce que c'est que la nature conventionnelle d'une chose ? C'est sa dépendance, le fait qu'elle dépende d'autres choses. Sa nature ultime et sa vacuité d'existence intrinsèque et indépendante. Donc on va terminer la session donc par une conclusion quant à la manière dont ce moi existe. Donc vous avez perçu donc cette existence du moi, vous n'avez pas nié le jeu conventionnel qui existe en dépendance de causes et de conditions. Vous avez simplement nié l'existence d'un jeu véritable qui est imposé par la saisie égotique. Donc pensez que cette méditation, en fait, n'est qu'un pas de plus sur la voie pour accéder finalement à une vision profonde directe de la vacuité et couper ainsi la racine de la souffrance et de l'insatisfaction. Bien. Est-ce qu'il y a des questions sur cette méditation ? Un petit peu longue peut-être, après un peu, c'était la première fois, après on peut raccourcir au fur et à mesure. On comprend le phénomène, le principe. Oui, tu veux un micro ? Donc ça va nous amener, oui, pardon, à la production interdépendante, en fait, qu'on a commencé à voir.
Alors, moi j'en suis arrivée à la conclusion, je ne sais pas si c'est ça qu'il faut faire ou pas, que ce fameux jeu venait d'une perturbation mentale.
Venait d'une perturbation mentale.
Naissait sur une perturbation mentale.
Ah non.
Le jeu en colère, parce que j'ai pris la colère.
Ouais.
Il venait d'une perturbation mentale.
Il vient de la perturbation mentale ou c'est lui qui crée la perturbation mentale ? C'est la cause ou c'est l'effet ?
La cause.
La cause.
L'effet, pardon. Non, l'effet.
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 Le jeu est l'effet de la perturbation mentale.
Ce jeu-là, colérique.
Ouais.
Il vient d'une réaction. Quelqu'un m'a dit que j'étais nulle, par exemple. Et que, Alors, je ne sais pas si je m'exprime comme
ça. Si, je vois. Ouais.
Et du coup, bah, comme ça vient d'une perturbation mentale, de quelque chose qui va passer, il va passer avec. Je ne sais pas si c'est...
Là, tu t'identifies à une perturbation mentale, en quelque sorte.
Bah, ouais,
comme la colère, par exemple.
Ouais. Je ne sais pas si c'est ça, mais voilà, mon ressenti oui, de cette méditation. Oui. Je sais pas si c'est...
Et c'est plutôt l'identification au jeu est plutôt la cause de cette perturbation mentale, pas tellement l'effet. Je pense. Hein. Analyser, c'est un peu... Ouais.
Parce que là, la colère, c'est la perturbation mentale.
Prenez le micro. La règle ici, c'est toujours la même, de lever la main, d'attendre le micro, et puis de parler dans le micro pour que tout le monde entende, non seulement dans la pièce, mais aussi sur Zoom.
Oui, la colère, c'est la perturbation mentale. Donc... Donc ça voudrait dire que le jeu a créé cette colère, logiquement.
L'identification à un jeu a créé cette colère. Pas le jeu, mais l'identification au jeu a créé cette colère.
Du coup, la question, c'est en quoi cette colère est justifiée d'une certaine manière.
Ça, elle n'est jamais justifiée, la colère. C'est pas un moyen de communication, je pense. Enfin, je pense pas, hein, je sais pas, c'est pas vraiment justifié puisque dans cet instant-là, on n'a pas trop de sagesse quoi, quand on est en colère. On perd un petit peu sa sagesse hein, quand on est en colère. Tu veux bien passer le micro derrière, s'il te plaît. Merci.
Moi, j'en suis venue à la conclusion qu'en fait. J'arrive pas trop à trouver les mots, mais en fait qu'on est tout et que comme
on est tout,
tout n'est rien à la fois. en fait, par exemple, je veux dire, je peux être cette chose et demain disparaître, et du coup, quand je vais disparaître, ben les atomes entre guillemets ou le nom qu'on va donner à ce qui nous compose va entre guillemets, s'éparpiller partout, comme on l'a vu à un moment donné, avec en décomposant notre corps, de tout, voilà. Mais qu'après, c'est possible qu'au final, certains de ces atomes, ils vont être repris pour former autre chose. Et c'est pour ça qu'en fait, chaque chose, il y a du tout dans tout. Et voilà.
Okay.
Je ne sais pas si j'ai été clair.
L'essentiel, c'est qu'en fait, la conclusion... Enfin, quelle qu'elle soit, c'est que le jeu perd de sa solidité. Après, on ne sait plus trop où le mettre, si on va le mettre dans la colère, si on va le mettre comme cause, si on va le mettre effet, on ne sait plus trop où il est. Et en fait, c'est un des effets de cette méditation, c'est de perdre la localisation un petit peu, de ne pas arriver à le localiser, hein, alors qu'il semble bien exister de lui-même, et perdre cette notion d'un jeu solide. Donc si on sent que ce jeu complètement, se dissout complètement dans l'espace et qu'on ne sait pas trop ce qui va former, ce qui va se passer après, on reste dans cet état. Comme vous voulez, vous pouvez appeler semblable à l'espace un petit peu, hein, un peu plus spacieux, où le jeu, on est moins fermé, moins centré sur un jeu auquel on adhère et qui n'existe pas. Là, au contraire, on reste dans une perspective beaucoup plus ouverte, quoi. Oui. Je trouve que c'est bon, hein. C'est bien, il faut être content de se réjouir justement de ça, d'avoir un peu lâché, quoi, la solidité, hein, dissoudre un petit peu, hein, dissoudre ce jeu. C'est un peu le but, c'est surtout le but de cette méditation, en fait.
Bah, c'est pas qu'il n'est pas, c'est qu'il peut être tout, en fait. Il peut
être tout et rien, comme
c'est
tu dis.
Ça.
C'est ça. Il peut être tout et rien. Oui, c'est tout à fait juste.
Oui, donc il y a quatre écoles bouddhistes. Est-ce que les autres écoles...
L'école hindouiste, tu veux dire?
Non, bouddhiste, les quatre écoles. Chez les Gelupas, est-ce que les autres écoles parlent du jeu de cette...
Ce n'est pas des écoles tibétaines, hein, c'est des écoles indiennes. Donc il n'y a pas de Gelupas, de Kagyu, de machin.
Elles sont toutes
d'accord sur pratiquement le même... Les écoles, donc c'est les écoles indiennes. Hein, c'est des écoles indiennes.
D'accord.
Oui. Oui, pardon.
Alors, l'enseignement sur le jeu, ils enseignent cette chose-là que tu nous enseignes depuis.
Oui, oui.
C'est ça qu'ils enseignent eux aussi.
Et oui, toutes les écoles, justement, cherchent l'objet de réfutation, puisque toutes ces écoles proposent à leurs adeptes une voie qui va les libérer du samsara. Hein, le but, c'est de libérer les pratiquants du samsara. Donc toutes les voies recherchent la vacuité. Hein, mais il faut arriver à une compréhension la plus fine, justement. Sinon, l'ignorance n'est pas détruite. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a pris les prasangika ici, parce que c'est eux qui ont l'explication la plus l'interprétation en tout cas des paroles du Bouddha qui est vraiment juste, quoi, hein, qui est la plus subtile, pas la plus facile à comprendre, mais la plus subtile. Mais toutes les écoles proposent justement une recherche, une investigation du je, hein, et des phénomènes, du non-soi, de la personne et des phénomènes, qui sont définis de manière différente parce qu'elles voient. Après, c'est une histoire de concentration, c'est une histoire de comment on analyse les choses, quoi, comment on les comprend. C'est la philosophie. Hein.
Oui, moi, pour apporter une autre approche, j'aime bien l'approche de Nasrin Reza, je ne sais pas si tu connais une conférencière. En fait, elle parle d'équipe terrestre, ça me parle bien, c'est un peu...
Une équipe terrestre.
C'est ça, comme des agrégats, en fait, justement.
Mmh.
Et elle parle du complexe corps, mental et émotion, du coup.
Oui.
Du coup, les trois, voilà.
Ouais, non, ça revient un peu au même, ouais.
Oui, c'est ça. Mais du coup, est-ce que l'agrégat, une question que j'avais, c'est est-ce que l'agrégat, du coup, lui en soi, il a une essence ?
Non.
Non ?
Mais c'est ce que dit
Nagarjuna.
Ouais. Si on cherche le jeu 1, le chapitre 18, la première. Si le soi était les agrégats, il serait sujet à la naissance et à la cessation. S'il était différent des agrégats, il en aurait les caractères. Hein ? Et donc, cette recherche du soi.
Oui, donc les agrégats.
Si on le cherche dans les agrégats, on ne le trouve pas non plus. Les agrégats eux-mêmes ne sont pas le jeu.
Hein. Oui.
Chacun des agrégats, on peut les prendre les uns après les autres, ça ne sera pas le jeu.
Oui, en fait, du coup, ils ont une essence, mais de manière codépendante. Voilà.
C'est ça. Ouais. Ouais, complètement. Complètement. Vous voulez qu'on essaye de faire la vacuité des agrégats ? C'est possible. Hein. On peut prendre n'importe quel phénomène. Et on peut essayer de trouver si le jeu est dans chacun de ces phénomènes. Donc on peut prendre chacun des agrégats. Hein. C'est ce que dit le sutra du corps, le sutra du cœur. La vacuité est la forme n'est pas autre que la vacuité. Hmm. Oui.
Christian, j'aurais une question.
Oui.
En fait, j'ai terminé cette méditation en essayant de comprendre sans conclure si finalement le jeu était égal à l'ego.
Oui, c'est ça, c'est pareil. Le jeu de la personne, c'est l'ego en fait. Hein. Mm-hmm. Oui. C'est ça.
Est-ce qu'il n'y a pas des situations dans lesquelles on pourrait dire que le jeu serait plus que l'ego ?
Ah, comme s'il y avait un grand soi, un grand... Il y a des philosophies, effectivement, qui parlent d'un soi, avec un grand S, peut-être, qui est au-delà de l'ego. Et justement, on est tellement obnubilé par l'ego qu'on ne voit plus ce soi. Donc, dans ces philosophies, hindouistes ou autres, je ne sais plus, on va essayer de retrouver le lien que l'on a avec ce soi. Mais bon, ça, c'est pas une démarche bouddhiste. C'est pas une philosophie bouddhiste. On pense pas qu'il y a un soi qui soit supérieur à l'ego et qu'il faille retrouver. Hein. Mais ce genre de philosophie, bien sûr, existe.
Alors, les personnes qui seraient profondément altruistes fonctionnent toujours sur la base d'un jeu.
Ah oui, bien sûr. Un jeu, oui, du jeu conventionnel, oui, du simple jeu, bien sûr.
Oui.
Chaque fois qu'on a une émotion forte, en fait, il y a ce je qui a une existence véritable qui apparaît. Donc même si on est très altruiste, si on se prend très au sérieux dans son altruisme, il y a les saisies de l'existence véritable. Hein ? On peut être altruiste et se prendre très au sérieux dans son altruisme. Là, on n'est pas un bodhisattva. Le bodhisattva, justement, par les six perfections, il élimine cette saisie du jeu dans l'activité, dans l'action. Et les six perfections, qu'on a eues, on ne l'a pas trop étudiées, mais certains d'entre vous les ont étudiées, elles servent à ça, justement. On doit les pratiquer quand on a une bonne compréhension, voire une réalisation du non-soi de la personne. Et à ce moment-là, la générosité, quand on la pratique, en ayant conscience de la vacuité. De la vacuité de la personne qui donne, de la vacuité de la personne qui reçoit, et de la vacuité du don d'être généreux. La vacuité du don. Hein. Donc ces trois choses, ces trois pôles, hein, doivent être vues dans leur... pratiquer dans leur vacuité, en voyant l'absence d'existence véritable du donateur, du don et de la personne qui reçoit. Ça, c'est très important. Justement, c'est la mise en pratique de la vue de la vacuité. Cette vue de la vacuité, elle sert aussi dans l'action. Et un bodhisattva va évoluer non seulement dans sa méditation sur la vacuité, mais aussi dans son application de la méditation à l'action. Et plus ça, et les deux vont se renforcer. Hein. Plus il va méditer sur la vacuité, plus il va comprendre la vacuité, plus sa pratique des six perfections va être forte. Et plus sa pratique des six perfections va être puissante, plus il va, parce qu'il va accumuler des mérites en pratiquant les six perfections, en pratiquant la générosité. Hein. Il va accumuler de nombreux mérites, il va purifier des négativités, et ça va lui permettre encore d'enlever des voiles qui lui permettront d'encore mieux de voir la vacuité. Donc si un pratiquant se prend trop au sérieux en pratiquant la générosité, en réifiant encore le donateur, le don et la personne qui reçoit, il n'a pas la vision juste. Hein. On est bien d'accord. Même s'il a l'air très altruiste pour ça. C'est pas, hein. Après, tout dépend de la motivation, d'une part de sa motivation, et de comment il s'identifie à ce qu'il est en train de faire. Mais la vraie pratique, c'est ça, c'est la pratique des six perfections, en ayant bien conscience donc, de l'absence véritable, d'existence véritable, de la personne et des phénomènes. Donc c'est vraiment une très très belle pratique. Hein. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait juste sur son coussin, dans son petit espace protégé, c'est après, ou en même temps d'ailleurs, que ça se pratique dans l'action. C'est ça la voie des bodhisattvas, c'est ça le Mahayana. Ça vous fait peur? Non, au contraire, justement, ça devient de plus en plus facile quand on a la vue de la vacuité, puisqu'il n'y a rien, il y a rien à retenir, quoi, en fait. Quand on a vu l'absence d'existence véritable du jeu, on n'est plus, il n'y a plus de peur, hein, comme on disait hier. Oui, ça répond à la question, peut-être. Hein. Je ne sais pas, peut-être que je suis un peu parti un peu loin, mais.
Mmh. Oui, merci.
Oui, Sanka, qu'est-ce qu'il y a?
Il y a Thomas sur Zoom.
Oui.
Thomas, tu peux parler si tu veux.
Merci. Bonjour Christian, bonjour à tous.
Bonjour
Thomas. Je me demandais si la vacuité pouvait s'appliquer aussi à notre nature de Bouddha.
C'est un
esprit de Bouddha.
Oui, la nature de Bouddha, la vacuité.
Je pense que c'est même ça, en fait, parce que dans le sutra du cœur, il y a la voix aussi.
Ouais. Ouais. Alors là, c'est un gros débat. Là, tu rentres dans un truc.
Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, c'est un sujet très, très débattu. Pour les Gelugpas, l'école tibétaine, les Gelugpas ici, la nature de Bouddha, la vacuité, la nature de Bouddha, elle est vide d'existence en soi. Donc c'est un négatif, hein, c'est une absence d'existence véritable, la nature de Bouddha. C'est pas autre chose que la vacuité. C'est vide d'existence en soi. C'est une négation non affirmative. Hein. C'est une définition de la vacuité aussi, ça, d'après les Prasangikas, une négation non affirmative. C'est-à-dire on nie sans jamais affirmer quoi que ce soit, sans réifier quoi que ce soit. Donc la nature de Bouddha aussi, elle n'est pas réifiée. C'est pas quelque chose de concret. Cette nature de Bouddha, c'est quelque chose qui est vide d'existence en soi. Pour d'autres écoles, ils ne voient pas exactement de la même manière. Je parle d'écoles tibétaines, dans ce cas-là. Ils voient plutôt la nature de Bouddha, non pas comme un négatif non affirmatif, c'est-à-dire une vacuité, je vais dire pure et dure, absolue, mais plutôt comme un négatif affirmatif. Okay, c'est-à-dire que la nature de Bouddha, elle est vide d'existence en soi, mais elle est pleine de qualités. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle est vide d'existence en soi, mais elle est pleine de qualité. J'espère que Geshe Oden ne m'écoute pas. Il va venir débattre là, un petit peu. Non, ça, c'est pour les autres écoles, pas chez les Gelupa. Ils ne voient pas comme ça. Ils voient simplement que c'est vide et puis c'est tout.
Vide mais... d'existence en soi, c'est-à-dire...
Attends, prends le micro, s'il te plaît. Parce que là, il faut que tout le monde en profite.
Vide d'existence en soi, c'est-à-dire sans conscience, en fait.
Non. Avec la conscience que c'est vide d'existence en soi.
Mais qu'est-ce que le vide d'existence en soi ?
C'est ça, c'est la vacuité. C'est voir que les phénomènes sont... C'est la conscience, c'est la sagesse qui perçoit que les... La conscience dont tu parles, en fait, c'est une sagesse qui perçoit que les phénomènes sont vides d'existence en soi. Mais c'est une forme très évoluée de conscience, hein.
Parce que, par exemple, l'état de Bouddha, enfin, c'est une notion qui existe.
La vacuité aussi, et ça existe.
Donc dire que c'est vide d'existence...
Mais ça n'existe pas en étant... en existant, ça n'existe pas de manière véritable, indépendamment de cause et de condition. C'est tout.
Indépendamment, quoi.
Voilà. Indépendamment. C'est ça. C'est ça. Ok. Y a pas de... Donc, oui, j'ai terminé. Ouais, enfin, bon, tu vois ce que je veux dire un petit peu par la nature de Bouddha. Donc, les deux manières opposées qui sont. Enfin, peut-être pas forcément opposées, puisque ce sont deux façons de, les voir, de la voir, la nature de Bouddha. Je ne pense pas qu'elles soient opposées du tout. Hein. Je pense que, justement, peut-être qu'elles peuvent même se compléter, d'ailleurs, dans une certaine mesure. Mais pour ces écoles-là, donc la nature de Bouddha n'est pas complètement vide d'existence en soi. Elle a encore toutes ses qualités. Et c'est ça ces qualités sont intrinsèques à sa nature. Alors là, c'est là où il y a le débat. Hein. Mais je ne veux pas y entrer, c'est un autre sujet, c'est un autre cours. Hein. Peut-être qu'on y viendra à un moment donné. Mais bon. C'est un vaste sujet, ouais. Et les écoles, les philosophes, il y a eu beaucoup de débats dans toute la, dans tous les collèges monastiques tibétains. Ils se sont beaucoup écharpés là-dessus, quoi, sur la nature de Bouddha, le Tathagata Garba. Ouais. Ok.
Oh, Christian.
Oui.
Il y a aussi une autre question sur Zoom. Est-ce que tu peux recommander un livre en particulier sur la vacuité?
Sur la vacuité, ben, il y a celui-là... sur la vacuité ou sur le Madhyamika ? Sur la vacuité.
En fait, c'est une question qui vient de Stéphanie, s'il voudrait préciser, et sinon, c'est écrit sur la vacuité.
Une question sur... Oui,
c'est sur la vacuité. En fait, je regardais les livres sur les commentaires du Lamrim que j'ai, et en fait, il n'y a pas de chapitre sur la vacuité, donc je voulais...
dans le Lamrim, dans le spiralé, là. Oui, il y a chapitre 30. Chapitre 30.
Mais celui-là, je ne l'ai pas.
Ah.
Et on ne peut pas le commander en ligne, alors du coup, je voulais regarder.
Vous venez jamais à l'Institut ?
Ben, rarement, j'y étais la dernière fois au mois de mars.
Ah ben...
Je viendrai cet été.
Voilà, il faut le réserver. Voilà, ben, c'est bientôt, alors.
Okay.
Sinon, je pense qu'on peut l'avoir. On peut le commander à la boutique.
On peut le commander aussi.
Oui, vous pouvez le commander. Et si vous venez bientôt.
L'édition Magana ?
Non.
Ah oui. À l'Institut. À l'Institut. Je vais le téléphoner à l'Institut et me demander Aurélie. Ouais,
c'est ça.
D'accord, merci.
Voilà.
Christian ?
Oui.
Sven ?
Oui.
Pendant la retraite cet été, tu m'avais recommandé un livre. Sur la vacuité,
oui.
Que j'ai acheté à Woody. Alors, je ne sais pas s'il correspond au cours qu'on est en train de faire, mais ça s'appelait Comprendre la vacuité, oui. Chez Padmacara.
Oui, c'est bien. C'est un petit peu difficile, hein, peut-être quand même. C'est un débat. Comprendre la vacuité, en fait, c'est le 9e chapitre de Shantideva, du Bodhicaryavatara. Et donc là, il analyse donc justement la Shantideva, il a une perspective, une vision. Prasangika, donc il réfute toutes les autres écoles à l'aide d'arguments. C'est d'arguments logiques et tout ça. Donc c'est un peu difficile dans le sens où il faut bien connaître les autres écoles. Qu'est-ce qu'elles avancent, quels sont leurs présupposés, tout ça. Voilà. Mais si vous avez pas peur, vous pouvez, donc je vous le recommande, hein, c'est pas parce que je l'ai traduit, c'est pas de la publicité, mais « Au cœur du ciel », ça explique bien la vision madhyamika, avec tous les raisonnements, etc., et d'une manière assez simple, très abordable. C'est un petit peu gros, un peu cher, peut-être à l'achat, parce que bon... Il y a beaucoup de matériel, il y a beaucoup de choses dedans. C'est très progressif. Donc, si vous voulez vraiment un livre sur la vacuité et sur l'école madhyamika, sur l'interprétation madhyamika de la vacuité, sans trop rentrer dans les débats, hein, pour bien comprendre le madhyamika, pour bien comprendre comment aussi méditer sur la vacuité, je vous le recommande. Donc, Au cœur du ciel, volume 1. Voilà. Pour la pub. OK. On fait une petite pause, mais il est 4 heures. Hein, on reprend dans un quart d'heure. On va justement voir ensuite la production interdépendante. Donc, petite pause d'un quart d'heure.